Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Money Time.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Money Time, l'émission sportive de Prune sur le 92 FM et sur le www.prune.net partout sur la planète. Alors ce soir, Money Time saison 5 épisode 6, on est là pour vous raconter tout ce qui s'est passé dans la semaine sur la planète sport avec nos experts. Et ce soir autour de la table, on a Charles. Salut mon pote, comment tu vas bien ?
Salut Matt, salut à tous, et ben moi ça va très très bien.
Et ben tant mieux, à côté de toi il est de retour, c'est Fab, salut mon pote.
Salut à tous, je fais des gros bisous à toute la famille Patrick, qui est parti hier, et là c'est un grand supporter du FC Nantes, et on lui fait des gros gros bisous à toute la famille.
Et puis il y a Jean-Marc, comment tu vas bien mon Jean-Marc ?
Salut, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et je fais un gros bravo à tous les gens qui ont participé à Odyssea hier à Nantes.
C'est noté, et puis on aurait dû avoir Xav ce soir, on l'embrasse quand même, hein. Il est absent évidemment pour cas de force majeure, et on dédicace cette émission à Hélène, elle se reconnaîtra. Voilà, donc au sommaire, on va parler de football dans le Prune Football Club. On reviendra sur les résultats de tous nos clubs nantais qui étaient sur le pont cette semaine. Une page Sport Méca avec de la moto et de la F1 et dans Multizone. On parle un peu de rugby et de tennis et de plein d'autres choses. Voilà Maëlan pour le sommaire. On envoie le Prune Football Club, c'est du football.
Money Time. Le Prune Football Club. FC Nantes, Ligue 1, Champions League, foot étranger et bien plus encore. Le Prune Football Club. Money Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on commence la page football avec un retour sur les Coupes d'Europe. Ça se passait mardi et mercredi. La Ligue des Champions, ça concernait donc le Paris Saint-Germain et Lille. On démarre avec Lille, qui est le premier club à gagner à Séville. Charles, c'est superbe.
Ah ben c'est un très bon résultat pour nos amis lillois. C'était un match un petit peu déterminant dans la course pour savoir s'ils allaient pouvoir peut-être se qualifier ou non. C'est que Séville, c'est une équipe redoutable d'Espagne, on les connaît bien. Donc c'est un très très bon résultat pour nos amis lillois.
Ouais, ils se relancent complètement dans ce groupe. Un match sérieux qui leur laisse leur destin entre leurs mains.
Ouais, c'est ça, surtout qu'en plus, ils étaient menés. Lucas Ocampos pour Séville qui ouvre le score, l'ancien Marseillais. Et c'est Lille qui répond bien avec un pénalty en fin de première période, qui du coup, forcément, un petit peu casse la dynamique de Séville. Forcément, ça fait un petit coup au moral. Et Ikoné qui remet une couche en début de seconde période. Donc, c'est vraiment il se replace bien pour la course à la qualification. Et donc, on faudra voir ce que ça donne au prochain match qui va être du tout là vraiment déterminant pour les Lillois.
Parce que gagner à Séville, il fallait le faire quand même. Mm. C'est pas arrivé depuis.
Ouais, ils prennent 4 points sur cette double confrontation. On rappelle qu'ils avaient fait le nul à Pierre-Mauroy et une victoire et les 3 points sur le match retour. Donc il restera pour Lille, Wolfsburg et Salzbourg. Donc Wolfsburg, c'est costaud en Bundesliga. Hein.
Exactement, mais c'est surtout que le prochain match, ça sera Salzbourg à Lille. Et qu'au classement, le premier, c'est Salzbourg avec 7 points devant Lille, 5 points. Et Wolfsburg, 5 points.
Ouais, à Lille pourrait prendre la tête du groupe.
Oui, c'est un groupe qui est assez compliqué et qui va être très serré.
Bon, on n'en est pas là, mais est-ce qu'ils ont un destin européen, Lille ? Ou un huitième serait...
Un huitième serait un petit peu... Au début, on se dit un petit peu inespéré, parce que quand on voit ce qu'a perdu les Lillois en termes de joueurs, hein, Mike Maignan et tout, quand même, qui faisait la garde de Lille.
Et quand on voit le résultat en début de championnat.
Et c'est ça aussi, parce que le début de saison de Lille n'est pas forcément fantastique. Ils ont un peu du mal.
Ils ont perdu ce week-end.
Ils ont perdu ce week-end. Donc, c'est finalement, on pouvait s'attendre à autre chose en Ligue des Champions. Et finalement, on est plutôt bien surpris dans le bon sens du terme. Et ça fait plaisir à voir. Et donc, ils ont le destin chez eux, à Salzbourg. Parce qu'en cas de victoire, ça les rapprocherait soit d'une qualification potentielle pour les huitièmes.
Au minimum, l'Europa League.
Et au minimum, l'Europa League. Donc ça serait vraiment...
On espère mieux que reverser en Europa League, même si leur parcours serait peut-être un petit peu plus
ouais, mais au niveau
long
de compète,
dans
chose.
Cette compétition.
Mais il faut voir aussi les autres clubs, Wolfsburg qui a été tenu en échec aussi. Donc peut-être que oui, Lille peut passer en huitième.
Et puis ça dépendra, si tu finis premier de ton groupe, tu peux potentiellement taper une équipe moins forte.
Oui, mais moins forte que...
À ce niveau-là, moins forte, il n'y a pas beaucoup, quoi.
C'est de moins en moins
fort que Lille, il n'y a pas beaucoup dans cette
compétition. Le panel d'équipes qu'il y a, c'est compliqué de tomber moins fort, quoi.
Tu peux tomber sur un Villarreal qui est plus fort que Lille sur le papier, mais qui est battable peut-être. Comme un Séville.
Oui, mais alors c'est vrai qu'en finissant en premier, tu as plus de chances de tomber sur une ou deux équipes qui sont moins fortes, mais dans la globalité, ces dernières années, on a bien vu que ce n'est pas forcément le cas.
Non, on est bien d'accord.
Et qu'il y a tellement se rehausse de plus en plus chaque année. D'année en année, c'est très compliqué d'avoir un vrai tirage favorable.
Je reste sur du conditionnel. Un Porto, qui est plus fort aussi. Mais...
À Porto, ils ont fait quand même quart de finale il n'y a pas longtemps.
Oui, non, voilà, mais je veux dire, évidemment que tu vas tomber sur moins fort. On est
Porto,
d'accord.
C'est pas non plus.
Évidemment.
On tombera peut-être sur des noms un peu moins ronflants, mais ça restera des très bonnes équipes.
Voilà, si tu regardes les autres.
Salzbourg, tu me dis.
Non, mais on est d'accord, mais on n'est pas là-dessus. Mais quand tu regardes, si tu peux éviter City, Liverpool, l'Ajax. Ou le Real, ou le Bayern,
pas forcément.
Manchester United.
Je choisis l'Ajax.
Pas si mal, quoi.
Si Paris finit premier et City deuxième.
Bon, ils ne sont pas encore qualifiés.
C'est juste pour vous dire que.
Ils ne sont pas qualifiés.
Ils ne sont pas encore qualifiés.
Finir premier, c'est sûr.
Bon, on enchaîne Paris 2-2 face au Rasenballsport Leipzig. Contre-performance encore pour les Parisiens.
C'est pas une contre-performance au vu de ce qu'ils produisent comme jeu depuis le début de la saison. C'est plutôt attendu. C'est pas comme s'ils avaient fait un grand début de saison avec du jeu de produit.
Enfin, tu mènes 2-1. Normalement, t'as le match en
Le match aller, c'était la même mayonnaise. Ça a été le même scénario. Il pêche sur certains secteurs. En défense, si Marquinhos n'est pas là, c'est le bordel complet.
C'est du grand n'importe quoi.
C'est du grand n'importe quoi derrière.
Kimpembe, il est hors du coup.
Kimpembe, il prend un rouge, je crois d'ailleurs.
Il prend un pénalty.
Mais c'est compliqué, quoi. Derrière, c'est compliqué. Marquinhos, il tient la baraque tout seul. Et là, la défense, il va falloir...
C'est ça, et de toute façon, ça résume un petit peu le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Contre des équipes de Ligue 1, plutôt moyennes, ça va passer, parce que c'est pas Leipzig. Mais avec ce niveau de jeu-là en Ligue des Champions, hormis un petit peu le match contre Manchester City, où effectivement, là, c'était vraiment mieux et on avait bien aimé le match. Mais là, c'est vrai que sur ce match-là, sur la double confrontation face à Leipzig, c'est pas flamboyant. Alors, ils gagnent le premier match aller, entre guillemets... Un peu chanceux, un peu.
Très chanceux.
Très très chanceux et c'est mal payé pour Leipzig. Et là, c'est finalement un score plutôt logique sur ce qu'on voit du match. Sachant que Leipzig loupe un pénalty en plus.
Vu le match qu'ils font au match à Paris, Leipzig, faire un match nul là-bas, c'est inespéré. Parce qu'ils ont vraiment fait le même jeu. Ils sont bloqués. Ils ont joué en 4-4-2. Ils ont vraiment bloqué Paris. Et ils n'ont aucune opportunité, Paris. Ils s'en sortent bien, je pense.
Cette équipe de Leipzig, on la connaît bien. Elle fanfaronne. Enfin, elle a un gros potentiel avec des joueurs qu'on connaît. Hein, Nkunku, qui est
l'homme du match à chaque fois.
Poulsen, et leur Suédois, Forsberg. Et pourtant, ils sont éliminés de la compétition, quasiment.
Et Forsberg qui rentre en cours de jeu, en plus. Fosberg qui a fait son meilleur match, mais il rentre en cours de jeu. Et Nkunku, par contre, là, c'est l'homme du match aller-retour.
Ouais, pour Paris, ça va aller. Hein,
c'est l'homme du match tout court. Enfin, c'est l'homme de l'année avec Leipzig en ce moment. Hein.
Mais ça va recevoir. Mais mettez pas le dé, les gars, parce que vous confondez avec Benoît Nkunku.
Ah oui, c'est vrai.
Du PSG handball.
Nkunku.
Pas toi, Charles, pas toi.
Et pas avec Nkoulou, c'est encore autre chose. Ni Nkoudou, c'est encore autre chose.
Ça le fera dans ce groupe, vraisemblablement, avec Club Bruges, qui devrait prendre une volée au Parc des Princes.
Ils ont quand même battu ils ont fait match nul contre le PSG à l'aller. Donc
un accident.
Hein. C'était un accident. Ça fait quand même beaucoup d'accidents face à Leipzig aussi. Donc bon, faudra. Oui, de toute façon, il y a le Bruges est quand même à 4 points déjà de Paris. Mon avis, à domicile, ça devrait le faire. Mais l'important, c'est sur vous Paris, ça va être soit d'être premier ou deuxième. Et sachant que là, ils ont perdu la tête parce que dans le même temps, City est allé à gagner chez eux 4-1 face au Club Bruges. Donc c'est le match décisif, ça va être le prochain match contre Manchester City pour décider qui sera premier.
En espérant que Verratti soit présent.
Et Messi. Ouais.
Et Messi, évidemment. Mais Verratti manque énormément.
Bon, allez, vite fait, la Ligue Europa, Marseille, qui était menée 2-1 et après avoir mené 1-0, qui se fait remonter à 2-1 et qui réussit l'exploit, parce que c'était vraiment pas évident d'égaliser cette équipe de la Lazio.
C'est une bonne équipe, la Lazio.
2-2, mais toujours invaincu les Marseillais, mais 4 points, c'est court, plus son destin en main.
C'est ça, mais 4 points, 4 matchs nuls. Alors, pour l'instant, ça va être très compliqué. Ils sont 3e de leur groupe avec seulement 1 point de retard sur la Lazio, mais 4 points quand même sur le Galatasaray. Le prochain match, c'est contre Galatasaray. Ça va falloir gagner pour espérer se qualifier.
Voilà, et si ils ont de la chance, la réussite, ça sera reversé en Europa League Conférence.
Là, on voit quand même un Dimitri Payet exceptionnel qui tient l'équipe à bout de bras. Et heureusement qu'il est là.
Ah oui,
parce que s'il n'était pas là, Marseille,
Payet avec Sampaoli, c'est redevenu le joueur qu'on connaissait.
Ouais, parce que Milik, c'est pas l'homme qu'on attendait. Les cas, dans l'efficacité.
Non, Milik, c'est quelqu'un. Quand même, c'est un attaquant qui est passé par Naples, on le connaît. Il est quand même, c'est quand même quelqu'un qui était très efficace. La deuxième partie de saison.
Très efficace,
la dernière...
hier soir, tu l'as vu encore avec ses pieds carrés.
Pas terrible. D'accord avec toi, Mathieu. Pas terrible hier soir.
La deuxième partie de saison dernière, il fait quand même plutôt une bonne seconde partie de saison. Après, il loupe un match hier, c'est pas non plus, ça résume pas toute sa carrière. Bon, voilà, ça reste quand même un bon attaquant qui va être utile à Marseille s'il veut l'espace se qualifier.
Et Nguyen, il est plus là, c'était lui le feu follet du début de saison.
Oui, alors il est quand même très jeune, faut pas non plus s'enflammer sur des jeunes joueurs comme ça.
Ils vont tous être cramés au mois de janvier, ça vaudra plus rien et on va encore pleurer pour Marseille. On va plutôt parler des équipes en passe de se qualifier. Parle de Lyon ou qualifié.
Qualifié, Lyon.
Lyon est déjà qualifié et y assuré d'être premier du groupe avec 12 points, 4 matchs, 4 victoires. Il domine largement le Spartak Rap 3-0 avec un doublé de Slimani notamment. Et ce qui fait qu'ils sont directement qualifiés pour les 8e de finale, sachant que ça change maintenant.
Ils gagnent un tour.
Exactement, parce que les premiers maintenant sont directement qualifiés pour les 8e, puis après il y a une sorte de barrage pour les.
Il y a une barrage entre ceux qui sont reversés de Ligue des Champions. Et c'est le même principe pour la Ligue Conférence. Parlons de Monaco, bien parti aussi.
Monaco qui fait un 0-0 contre Paris Eindhoven. Donc Monaco qui est premier de son groupe, donc c'est pour l'instant c'est plutôt intéressant, toujours pas de défaite, donc va falloir assurer au prochain match une victoire et normalement ça devrait se qualifier sans souci pour Monaco. On est content pour eux et ça va faire du bien surtout aux équipes françaises pour l'indice UEFA.
Pour l'indice UEFA,
sachant que ça fait quand même 16 matchs d'affilée en Coupe d'Europe, toute coupe confondue, qu'un club français n'a toujours pas perdu, donc ça c'est plutôt cool. Donc c'est
que Lille, finalement, il y a une défaite
et c'est que Lille,
défaite de Lille sur toute la campagne de tous les clubs français, puisque Paris est toujours invaincu. Et Lille avait perdu face à Salzbourg.
Exactement. Et c'est la seule défaite. On peut parler de la plus petite compétition où Rennes est en tête de son groupe devant Tottenham après sa victoire contre Murat.
C'est même devant Arnhem. Non, Tottenham a battu Arnhem.
Oui,
c'est
oui, ça. Ils avaient pris leur revanche. Entre-temps, Tottenham était passé 3-0.
C'est ça.
Mais Rennes, du coup, est en tête devant Tottenham en ayant battu Murat.
1-0.
Et Vitesse Arnhem, 3e. Donc, c'est plutôt bien.
Non, c'est but de Badé déjà.
Badé, pardon.
Et effectivement, donc c'est pour l'instant, tout va bien pour les Français, les clubs français en Ligue.
Et on espère que ça va durer. Et on bascule sur la Ligue 1. Et le match qui nous intéressait, c'était hier dimanche, 15h à la Beaujoire. Les Nantais recevaient Strasbourg, et hélas pour nos Canaries, un partage des points qui fait le bonheur de personne de partout. Score final.
Alors, Koulibaly qui avait ouvert le score de la tête, on était plutôt contents.
Une histoire de tête.
Le premier but de Koulibaly de sa saison.
Deuxième titularisation.
Sur un joueur où on n'y croit plus trop. On n'y croit pas vraiment.
C'est un profil qui peut être
Koulibaly, on n'y croit pas vraiment. Je suis d'accord avec toi, Jean-Marc.
Derrière, Strasbourg.
Alors, est-ce qu'on a raison de ne pas y croire?
Peut-être un peu quand même.
Ça fait un petit moment qu'il est là, si vraiment il devait percer.
C'est vrai.
Alors, c'est un bon point d'ancrage en attaque, mais il ne faut pas tout le temps utiliser que lui. Donc, du coup, Nantes se fait égaliser. Déjà, on se dit, mince, c'est dommage, c'est ballot.
Mais heureusement, Strasbourg prend un rouge.
Oui, un rouge extrêmement sévère pour moi sur Ajorque.
Oui,
alors, il arrive très très vite et il se croise avec Fabio. Sur un rond-point, il y a 50-50.
C'est cassé les taux.
Non, c'est Fabio Castelletto.
C'est Fabio. C'est sur Fabio.
Bon, bref. Pour moi, l'arbitre décide de lui mettre un rouge alors que le joueur reviendra sur le terrain, sortira pas. Je trouve ça extrêmement sévère. Bon, c'est le choix de l'arbitre.
Il faut savoir que le Réunionnais à Jorque, c'est son premier rouge sa carrière.
Ouais. Bon, c'est pas un joueur méchant.
C'est pas du tout méchant, c'est vraiment, il se croise. Bon, comme il est plus grand, le genou, il est peut-être plus haut.
Bah, c'est ça, en fait, c'est au moment où il tirait, il est un petit peu. En fait, il est déséquilibré, du coup, il tire vraiment un peu.
C'était bien, Charles, sur Fabio. Rater.
Oui, c'est sur Fabio. Je n'ai rien dit, j'ai bien dit Fabio.
Non, mais je t'en prie.
Non, mais c'est pour ça, il est beaucoup plus grand que Fabio, et c'est peut-être pour ça. J'ai trouvé ça sévère. Bon, résultat.
On s'est dit, c'est dans la tête, c'est bon, les Nantais vont gagner. Et bah, bim bam boum, ils se font égaliser par Thomas.
Ah bah attends, on n'a pas parlé du but de Kolo Muani.
Il y a le superbe but de Randall Kolo Muani, de la tête aussi.
Non, c'est avant le but de Kolo Muani, avant le rouge. Mais c'est pas très grave.
Ah, le rouge,
oui, c'était le 48e et le rouge c'était à 51e.
Ah oui, pardon, exact, c'est moi qui dis une bêtise.
On gagnait 2-1.
Comme l'autre fois contre Clermont, on avait marqué avant le carton.
Mais les Nantais trop passifs, pas au marquage, et ils se font égaliser sur une action d'école avec une tête imparable à bout portant.
De Thomasson, un ancien Nantais.
Ouais. Un peu un coup dur pour les Nantais.
Koumboiré en conf de presse a clairement dit que c'était encore 2 points de perdu. On le comprend, on pouvait accrocher le bon wagon. Là, on se laisse un peu distancer par les équipes de tête, c'est dommage.
Ça va compter à la mi-saison. Et la dernière, on est d'accord, l'année dernière, on avait 8 ou 9 points. Là, on en a 18, je suis d'accord. Mais il va falloir quand même prendre des points, parce que là, à la maison, on ne prend pas 7 points.
Bon, attention, là, ça va être compliqué, le calendrier, le prochain match PSG, pour les Canaries, hein, c'est au Parc. Il y a la réception de Marseille qui arrivera après.
Non, on va prendre les grosses équipes.
Non, mais c'est ce qu'on avait dit, qu'il fallait prendre ses points contre Strasbourg. Ça n'a pas été fait, c'est bien dommage.
Mais Jean-Marc, il y a plusieurs équipes pour ça. On a perdu des points contre Nice, contre
Lyon. Bien sûr. Si tu regardes au niveau du championnat, comment ça se déroule. Nice, c'est presque logique de le perdre, de perdre des points, puisqu'ils sont troisième. Lyon, quelque part, c'était un peu logique aussi.
C'est logique.
C'était pas des surprises.
Je
suis d'accord sur les scénarios de match. Après, ce qui m'ennuie, c'est de perdre un match comme Strasbourg, qui du coup est devant nous, mais ils auraient dû être derrière.
C'est pareil. Contre Bordeaux, on fait match nul.
C'est des points perdus.
Bordeaux, c'était une petite vendange aussi sur le plan comptable. Bon, on parle de nos voisins. C'était le match phare de la 13e journée. Rennes accueillait Lyon. Et un carton des Bretons.
Moi, j'ai vu le match. Franchement, bravo Lopez. Parce que Lyon, on prenait 8.
C'est vrai qu'ils auraient pu être menés de plusieurs buts. Ce qu'a dit Peter Bosz, le traîneur lyonnais, à la mi-temps, il a dit que 4, c'était pas beaucoup au final.
Ça marche le cœur de le dire, mais Rennes mérite largement sa victoire. Parce qu'il gagne 4-0. Mais ils égalisent sur Paqueta, sur un pénalty à la 93e.
Non, ils réduisent le score.
Ils réduisent le score. On va réduire le score.
Et puis le Truffert, qui met un doublé, ce remplaçant que je ne connaissais pas.
Si, Adrien Truffert, c'était un très bon joueur qui est un international espoir, qui est vraiment un homme sur qui Sylvain Ripoll peut compter chez les espoirs. Très très bon latéral. Qui finira sûrement en équipe de France avec tous les problèmes de latéraux que l'équipe de France a.
Et Rennes, qui reste cinquième, toujours qui derrière Lens qui continue à prendre des points toutes les journées, puisque Lens, c'est...
Belle victoire contre 3, 4-0, c'était samedi.
Il n'y a rien à dire.
C'est ça, ils se sont bien remobilisés après la défaite contre Lyon la semaine dernière. Donc c'est une bonne victoire. Lens qui continue sur sa lancée du début de saison, qui font un excellent début de saison.
Avec leur buteur, Kalimuendo, continue de scorer match après match.
Exactement, donc on espère les voir européens en fin de saison.
On espère que ça sera nous, peut-être.
Nice, le petit dérapage. Nice qui était bien, qui avait gagné deux victoires en fin de match contre Angers et contre Lyon la semaine d'avant. Ouais, petit dérapage en fin de match face à Montpellier.
Florent Mollet.
Bourreau de la semaine dernière. Ouais. Florent Mollet, superbe but.
C'est ça. Première défaite à domicile de Nice.
Ouais, et puis Nantes est 10e, 18 points, finalement, qui a 6 points du dauphin du Paris Saint-Germain qui en a 24. Donc l'écart n'est pas très grand, ces deux victoires. On revient vite, une belle série, et puis tu te replaces rapidement.
Et toujours collé à notre cher voisin Angevin, qui a également 18 points.
Ouais, tout à fait. Et le match qui était intéressant, c'est le derby breton, Lorient-Brest, et la grosse surprise.
Brest qui vient... Surtout que Lorient mène, prend un carton rouge, c'est Ergo. Un sur un contact, pareil, c'est un peu du 50-50. Peut-être qu'il y va un peu plus violemment, sauf qu'il lui marche sur la cheville. Et puis du coup, ça a retourné le scénario.
8 mois que Lorient n'avait pas perdu au Moussoir. 8 mois. Et Brest arrive, alors que Brest est relégable depuis le 29 août.
Ouais, et là, et il avait gagné son premier match la semaine dernière contre Monaco.
Contre Monaco, donc il sort sur une belle série. Et là, ils sortent de la zone de relégation.
17e.
Ouais, qui tenait depuis le 29 août, ils étaient relégables. Donc là, c'est bien pour Brest. Ouais. Michel Derzakarian doit être très content. J'ai vu une vidéo sur Internet où les supporters brestois, ils ont accueilli sur le pont de recouvrance à Brest. Ça a été génial.
Tu m'étonnes. Et Lorient qui est sur une mauvaise série puisqu'ils sont sur 5 matchs sans victoire.
Du Saint-Etienne qui remporte son premier match de la saison, ils ont été un petit peu
renversants. Quel scénario, exactement. Ils étaient menés 2-0 par Clermont et puis patatras, scénario s'inverse, victoire des Stéphanois.
Dernier quart d'heure. 3-2. Dernier quart d'heure. Alors, faut savoir ce truc-là, c'est arrivé 9 fois en 40 ans qu'une équipe se fait renverser dans le dernier quart d'heure. C'est arrivé l'année dernière, d'ailleurs, où Nice était menée 2-0 au dernier quart d'heure et Lyon gagnait 2-0 et c'est Nice qui avait gagné 3-2. Et là, ça s'est passé exactement la même chose. Et c'est arrivé très peu de fois. Mmh. C'est arrivé à Marseille, c'est arrivé à Paris, contre Lorient d'ailleurs. Mais c'est arrivé très très peu de fois. 9 fois depuis 75 ans.
Et du coup, au classement sur les derniers, c'est Metz qui est, malgré son match nul à Marseille,
dernier rouge.
L'équipe de Fred Antonetti.
Et Sainté, ça va être compliqué encore toute la saison.
Oui. Pas trop se faire d'illusions.
Tout comme Bordeaux.
Et Bordeaux, n'en parlons pas.
Des clubs mythiques à la peine.
Et comme vous parliez de Metz, je crois qu'on a fini pour la L1. Je me permets de basculer sur la D2 féminine, puisque Nantes recevait Metz en leader. Et malheureusement, les Nantaises ont eu un mal fou à rentrer dans le match. Ils ne sont jamais vraiment rentrés. Résultat, but à la 23e et 52e pour Metz. Nantes qui réduit le score par Pauline Deyer à la 80e. Mais les Nantaises sont passées à côté. C'est dommage, c'était la meilleure affluence de la saison. 458 spectateurs, c'est bien, on monte. Et puis au classement.
On va à Monaco.
Hein ouais, non, à Monaco. C'est pas mal. Hein. C'est les matchs à Sopin. Je vous rappelle, c'est gratuit. Hein. Faut pas hésiter à y aller.
Classement, elles sont leaders avec Le Havre.
Alors exactement. Au classement, ça change pas grand chose. Enfin, un petit peu. Tout le monde, ça s'est resserré. Le Havre et Nantes sont en tête avec 17 points. Metz et Lille sont 3e et 4e avec 16 points. Au programme dimanche prochain, déplacement à La Roche-sur-Yon pour les Nantaises à 15h. La Roche-sur-Yon qu'elles retrouveront le 21, toujours là-bas, à 14h30 pour le premier tour fédéral de la Coupe de France. Il y en aura deux avant les entrées en lice des équipes de D1 à Arkema. Et puis, à noter que dans cette Coupe de France, en même temps, Orvos Sport se déplacera chez le petit pousset de la compétition Notre-Dame d'Oé.
Et pour être complet, donc en D2 féminine, il y a deux groupes. Dans l'autre groupe, c'est Rodez qui est en tête. Et dans chaque groupe, il n'y en a qu'un qui monte. Donc Nantes doit terminer première si elle veut sa place en D1.
Championnat extrêmement compliqué. Après ces rencontres face à La Roche, ce sera la réception du Havre.
Eh bien, on a été complet sur le foot, Maëlan.
Juste un petit mot à l'étranger.
Ah, allez, vite fait, il y avait des classiques.
J'ai quelques résultats.
Allez, vite fait.
Il y avait en première ligue United qui perd le derby face à Citizen. Une leçon de football pris par United. Solskjaer est de plus en plus en danger. La défaite du coup de Liverpool, première défaite de la saison face à West Ham. 3-2. West Ham qui est du coup 3e devant Liverpool. En Liga, la remontada pris par le FC Barcelone qui menait 3-0 et se font égaliser en toute fin de rencontre pour faire 3-3 contre le Celta Vigo. Le Real Madrid. Deuxième avec la victoire contre le Rayo Vallecano, c'est la Sociedad qui est en tête, une victoire 2-0 pour eux. En Italie, c'était le derby italien, le derby milanais entre l'AC Milan et l'Inter, 1-1 avec un penalty de Çalhanoğlu, l'ancien milanais qui a un petit peu chambré les supporters. Lautaro Martinez, l'Inter qui loupera un penalty, un poteau en toute fin de match pour Milan qui ont cru espérer la victoire.
On a noté aussi le super but de Grisou contre Valence.
Exactement,
magnifique.
Un but, d'ailleurs, un match nul, un match très intéressant. 3-3 face à Valence. Hugo Duro qui mettra un doublé dans le temps additionnel pour le Valence. Donc, mais malgré un très beau but d'Antoine Gaspar.
Ouais, pour la conquête du Ballon d'Or, et Benzema et Lewandowski ont marqué ce
week-end. On en parle ou on n'en parle pas du Ballon d'Or avec Jean-Marc?
Je crois que les votes sont clos. On n'a pas le temps. On
croit que les votes sont clos.
On en parlera peut-être la semaine prochaine, si tu veux. On n'en a pas le temps aujourd'hui.
C'est un sujet tabou avec Jean-Marc.
On part sur les sports méca, c'est Nitro. Alejandro, is there any damage? Is there any possible damage?
Pour passer, André Gallonnet reprendre la deuxième place, il était malade. Nitro, c'est toute l'actualité des sports mécaniques tous les lundis soirs à 19h dans Money Time.
Ouais, et on reste donc sur ces commentaires de moto pour parler du Grand Prix d'Algarve. Les garçons, avant-dernière manche du championnat du monde, la messe était dite hein, au classement fait, des pilotes. Fabio Quartararo a été sacré il y a 15 jours, mais les victoires, ça se gagne et ça n'a pas été pour lui cette semaine.
Et non, c'est encore...
Alors, est-ce que c'est lui qui a en fait, c'était la dépression, puisqu'on parlait de la pression il y a 15 jours pour Bagnaia qui était tombé en tête. Là, du coup, Quartararo, trop cool sur sa moto, il tombe au bout du 7e tour.
Non, c'est
peut-être. 21e tour, il tombe.
Il dit que c'est ses qualifs qui ont ruiné sa course. Hein. Trop à la ramasse en qualif, pas possible
il est parti
de jouer 15e, une place.
Il voulait faire quelque chose, mais apparemment, il a fait beaucoup
la. Il est remonté la 6e place, mais il fait trop d'erreurs.
Il part 7e sur la grille, il loupe un peu ses qualifs. Ils ont expliqué qu'il y avait un petit peu des problèmes de réglage sur sa moto. Ils n'ont pas du coup trouvé les bons réglages.
C'est toujours le même problème qu'il a, excuse-moi Charles. Vas-y. Mais c'est son pneu arrière qui déconne à chaque fois. Il le dit à chaque fois, c'est virulent. Il a son pneu arrière qui part en live.
C'est ça. Après, c'est voilà, c'est avec la moto, c'est comment ils le gèrent, c'est tout ça. Et je pense que s'ils n'ont pas trouvé de solution, c'est peut-être qu'il n'y a pas de solution à trouver et que, enfin, il faudra qu'ils fassent avec. Après, il faudra voir l'année prochaine s'ils arrivent à trouver une solution avec une nouvelle moto un peu plus performante, parce qu'on voit aussi ce qui lui pose problème, c'est aussi sa moto, parce que la M1 de Yamaha est tellement moins performante que les Ducati aujourd'hui, voire même les Honda et les Suzuki. Donc c'est comment il a réussi quelque chose d'exceptionnel cette saison en gagnant, en étant quasiment le seul Yamaha à performer cette saison. Il gagne le titre et tout parce que Bagnaia se loupe sur quelques grands prix,
Marquez se blesse.
Marquez revenait de blessure, en plus il se reblesse à quelques moments.
Il se reblesse aux essais. Donc,
Vraiment, il va falloir qu'ils se mettent au niveau Yamaha si vraiment ils veulent pouvoir faire en sorte.
Il y a vraiment un problème de puissance.
Dire que il a eu un petit peu d'atouts cette année pour gagner. Il a eu des facteurs chance pour gagner.
Ah oui.
Par rapport
mais
à ses concurrents.
Il y a surtout des facteurs ultra pro. Il a été les chercher. Les autres, il s'est placé au mieux.
C'est ça, mais c'est qu'en fait, il est tellement bon quand on le voit avec une moto beaucoup moins, bien moins performante que les Ducati. Franchement, s'il avait vraiment une moto très performante, il dominerait largement les débats. Et on l'a bien vu sur le Grand Prix d'hier, c'est parce que sa moto n'est pas assez puissante et qu'il du coup, il n'arrive pas à suivre en ligne droite les Ducati et il ne peut pas les dépasser. Il a eu beaucoup de mal et je pense que c'est ce qui l'a un petit peu énervé pendant le Grand Prix de rester derrière Martin, Zarco, à chaque fois derrière Pramac. Il ne peut pas les doubler. Il a freiné un peu trop tard à un moment, il perd l'arrière et il tombe. Je pense que donc, la retombée un peu nerveuse du
Charles,
du
tu nous dis que potentiellement, Quartararo, dans une autre écurie, potentiellement, c'est possible. Quoi.
Chez Ducati l'année prochaine, ouais, c'est ce qu'il veut dire.
Il est en fin de contrat en 2022.
J'ai pas entendu parler du tout. Les
machines Ducati apparaissent vraiment supérieures de puissance à toutes les autres.
Il lui reste l'année prochaine. Faudra voir si soit il prolonge et que Yamaha se mette au niveau, il peut partir potentiellement chez Ducati.
Ça dépendra de Yamaha.
Il se mettre avec Bagnaia à la place de Miller. Miller qui n'est pas forcément non plus...
Oui, est-ce que ça sera chez Ducati ou une autre marque
Honda, parce que Marquez, il gagne, il fait quand même des motos performantes, il rivalise avec les Ducati.
Marquez qui s'est encore blessé.
Bon, je ne pense pas qu'il ira chez Aprilia, parce que c'est pour retrouver son cher ami Vignales, ça ne va pas le faire.
Ça ne va pas le faire, non.
Non, c'est ça, à mon avis, non.
Ouais, dernier Grand Prix dans 15 jours.
À Valence, un circuit qu'il aime beaucoup, donc... Donc ça va être très intéressant. On n'a pas trop annoncé trop les résultats d'ailleurs. C'était Bagnaia qui remporte du coup ce Grand Prix, son troisième Grand Prix avec sa sixième pole position de l'année, sa cinquième consécutive. Donc c'est lui qui prend du coup le record nombre de pole positions cette année devant Johan Mir qui réalise un très bon Grand Prix. Un très bon Grand Prix avec sa Suzuki, lui qui était un petit peu en difficulté cette saison, et Jack Miller.
Mir sur le podium hein, du classement des pilotes.
Exactement, et c'est une dernière, enfin Johan Zarco qui remporte le titre de meilleur pilote indépendant.
Alors satellite.
Donc c'est ouais. Bah, indépendant, c'est satellite, c'est pas les teams officiels.
Ce que j'aime bien cette saison, c'est que la dernière, Quartararo, il a fait la bêtise. Il a commencé un champion du monde en coup de foudre, et là il a perdu plein de. Des places,
oui, il finissait
quatrième, cinquième, alors que Mir finissait deuxième, troisième. Et là, il a réussi à être intelligent. Il l'a fait l'avant-dernier Grand Prix, quand il est champion du monde. Il se dit, je suis troisième, je suis sur le podium et je suis champion du monde. Mais là, il a dit non, je vais laisser passer. Je vais finir quatrième, c'est pas grave, mais je suis champion du monde.
Oui, là, ouais, non, il s'est quand même battu pour la troisième place. Hein,
et oui, oui,
il s'est fait passer par Bastianini.
Dernier virage, c'était un peu dangereux pour lui.
Mais oui, c'était une gestion du premier au dernier Grand Prix. Quoi.
Mais c'est ça, mais Fabio, qu'il a grandi en un an.
Il a pris des poids sur tous les.
Il a grandi. Il a été intelligent en disant je préfère le laisser passer et être champion du monde.
Allez, on va en parler d'un autre qui a certainement grandi aussi.
Oui, juste deux, trois résultats parce que c'est la Moto 3 et la Moto 2. C'est en Moto 3, c'est Pedro Acosta qui, du coup, rookie cette année, à seulement 17 ans, remporte le titre Moto 3 devant Denis Foggia. Donc, lui qui passera en Moto 2 l'année prochaine, toujours avec KTM, hein, Red Bull. Et en Moto 2, ça se jouera sur le dernier Grand Prix entre les deux pilotes, Rémy Gardner et Raúl Fernández du team Ajo KTM, qui passeront en Moto GP. Gardner qui a quand même 23 points d'avance grâce à sa victoire hier. Donc,
est-ce que c'est le fils de son père? Est-ce que c'est un Australien? Est-ce que c'est le fils de Wayne Garner?
C'est possible, mais c'est un Australien en tout cas.
En tous les cas, ceux-là succéderont à Bastianini, qui était le champion moto de l'année dernière. On va parler de la consécration peut-être d'un nouveau champion. C'est en Formule 1 et c'est un Hollandais, Max Verstappen. Ça commence à se préciser. Max. Max Verstappen. Ça va se préciser à 4 Grands Prix de la fin. Il est en tête.
Oui, c'est Fabrice. Pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi. Il reste 4 Grands Prix.
9 victoires hein, pour l'instant. Hein,
ouais, c'est année pour Verstappen. Sa 19e hier en
carrière.
En Formule 1, c'est
belle course au Mexique. Très belle course de sa part.
Déjà, le départ, il est extraordinaire. Il l'avait dit déjà au départ. Il avait dit la 3e place n'est pas la plus mauvaise.
Mais c'est, ça, mais c'est sur le sort de piste, Sochi et tout ça, où il y a des longues lignes droites.
Il a su passer. Après, on voit le Bottas se faire sortir. Et Ricciardo, il ne fait pas d'erreur. C'est Bottas qui resserre. Et d'ailleurs, Ricciardo
prend un peu tard quand même.
Ouais, mais Ricciardo ne prend pas de pénalité. Hein.
Non, parce qu'effectivement, Bottas est un petit peu lent sur le virage parce qu'il laisse passer entre guillemets Hamilton.
Oui, c'est dans évidemment, les premiers virages. Ils ont géré toute la course. Moi, je pense que la course la plus difficile, ça a été pour Hamilton parce que lui, il a fallu gérer entre.
Il a passé toute sa course entre Verstappen et Pérez derrière.
Et là, c'est compliqué. Parce que l'autre qui veut passer deuxième, parce que évidemment.
Il est chez lui.
Et quand il passait devant l'Arena, c'était costaud. Et voilà. Il n'a pas voulu aller chercher. Il fallait pas qu'il aille le chercher. Parce qu'il n'avait pas la puissance. Il l'a dit deux, trois fois dans la course. On n'est pas assez puissant. On n'a pas la même vitesse. C'était très, très compliqué. Donc maintenant, je pense que là, notre champion du monde, on l'a.
On voit très bien, puis surtout que les prochains GP qui arrivent, c'est-à-dire Sao Paulo, ce dimanche, le Qatar.
Tournée de Golfe Persique avec Qatar, Arabie Saoudite, Abu Dhabi.
Exactement, qui va arriver, c'est tous des circuits typés Red Bull. C'est pas des circuits typés Mercedes. Donc là, les Red Bull ont un énorme avantage et je vois pas comment, hormis problème mécanique ou accrochage volontaire de Hamilton, comme en Grande-Bretagne, je rigole. Mais c'est à mon avis. Là, il a quand même 19 points d'avance. Ça commence à faire beaucoup. Je vois pas comment Mercedes peuvent revenir. Et surtout Hamilton.
Il y a une stratégie énorme. Il y a un moment, je sais pas si tu as vu, mais Bottas, il est à la rue.
Qu'il est sorti. Et que dans le trafic, la Mercedes n'y arrive pas.
Oui, il a été chercher le point du tour le plus rapide pour enlever un point à Verstappen. Ça, c'était bien joué.
Ça, c'est hyper intelligent parce que ça peut jouer un point. Mercedes. Et Red Bull, ils ont un point d'écart au championnat du monde constructeur. Ce qui est très juste.
Mais donc, Red Bull qui revient très fortement au championnat constructeur.
Exactement. Et quand tu parlais de circuits favorables à Red Bull, c'est aussi des circuits favorables à AlphaTauri.
Ouais. Exactement.
Donc, l'écurie cousine de Red Bull.
Sœur, même.
Sœur, sa sœur italienne. et du coup, avec la superbe quatrième place de Pierre Gasly.
C'est ça.
Et si on parle de voitures italiennes, on peut aussi parler de voitures rouges. La très belle cinquième place et de Charles place. Leclerc et sixième pour Sainz.
Qui repasse devant McLaren, du coup.
Au plan constructeur.
Donc, ce qui est hyper important pour eux, parce qu'ils ont fait une belle course. Gasly était impressionnant, il a tenu. Il n'est jamais allé chercher, mais il a tenu derrière.
Ouais, c'est ça, parce que
derrière.
Pour l'instant, on a vraiment les Ferrari qui sont très régulières cette saison. On a Carlos Sainz qui a été 17 fois dans les points. C'est-à-dire qu'il y a une fois où il n'a pas été dans les points avec Ferrari. Leclerc, bon, qui a eu 2-3 soucis, malheureusement, on se souvient notamment à Monaco. Et donc, c'est vraiment les Ferrari qui sont très régulières et du coup arrivent à enchaîner des bonnes positions. 5e, 6e place à s'assurer tout ça. Ça assure des points pendant que les McLaren sont moins régulières. Et sur ce Grand Prix, seul Norris marque un point en prenant la 10e place. Donc, c'est compliqué. À noter surtout, c'est quand même le podium de Sergio Pérez qui est le premier Mexicain à faire un podium à la maison. Donc,
une victoire cette année pour Pérez aussi. Hein.
Ouais.
C'est ça.
On parle des Alpines.
Ce que je voulais dire, c'est que j'ai bien aimé la course d'Alonso.
9e.
Il a été 9e, mais il a voulu, aux essais libres, je ne sais pas si vous avez vu, prendre l'aspiration. Cocon repasse pour les Q3, Q2, ouais. Et il n'a pas pu. Et il était très désolé.
Bah, il se finit par 16e.
Voilà, ils n'ont pas pu faire les Q2, Q3. Et Alonso, il finit 9e, il fait une course quand même.
Bah en fait, peut espérer mieux d'Alpine.
Non, parce que dès le premier virage, en fait, avec l'accident, il a pu en profiter, il s'est infiltré et là, il a réussi à faire 9e. Mais
espérer
Alpine,
mieux d'Alpine, non, je pense pas. Espérer mieux d'Ocon, oui, j'espère.
Ocon, une victoire quand même cette année.
Oui, mais après,
il faut l'oublier.
Après,
que
15e, là.
Il ne faut pas l'oublier.
Moi, au bout d'un moment, j'ai envie de te dire, mais l'Alpine aussi, elle n'est pas très performante. Hein. Quand on le voit sur des circuits comme ça, elle manque quand même un petit peu de moteur, j'ai l'impression. Enfin, elle a du mal aussi en termes d'aéro, surtout. Hein. Elle a énormément de mal en termes d'aéro. Et donc, sur des circuits comme ça, où l'aéro est très important, c'est très compliqué pour Alpine et c'est pas étonnant. C'est une voiture qui est moins performante que l'année dernière.
Ils ont beaucoup de mal à prendre.
Ils verront en 2022, surtout.
Déjà, ils ont beaucoup de mal, tu les vois sur le Grand Prix, à prendre le DSR.
Le DRS.
Parce que le DRS, je veux dire. Ils sont toujours à deux secondes. Ils n'y arrivent pas à accrocher.
Sur ce type de circuit, c'est très compliqué. Le Dortier joue énormément sur les derniers virages. Et résultat, c'est difficile d'être très proche de la voiture qui a devant toi. Ce qui fait qu'il y a quasiment. En fait, quand on l'a vu pendant le Grand Prix, il n'y a quasiment eu aucun dépassement sur des voitures qui sont sensiblement, en termes de performance, équivalentes.
Rapide,
Hormis des grandes différences, c'est-à-dire entre les top teams et les fonds de grille, il n'y a quasiment eu aucun dépassement. Parce que c'est très compliqué de se suivre.
L'un des seuls qui l'a fait, c'est Alonso, justement.
Oui, bah Alonso, oui,
il n'y a pas de Ricciardo.
Il a tellement fait de différents sports qu'il est capable de dépasser sur l'herbe, par les stands ou par où tu veux.
Bon, allez, on ferme la page
de Sport Méca. Juste un petit mot de Sport Méca, je t'arrête. J'en ai pour une seconde. C'est pour vous rappeler que ce week-end, c'est la fin du WRC avec un possible 8e titre pour Sébastien Ogier. Ça sera à Monza, en Italie.
D'accord. On suivra ça, on en parle lundi prochain. Maëlan, on passe aux résultats de nos clubs nantais. C'est Score en stock.
Money time. Score en stock. Résultats, analyse, classement et agenda des clubs nantais. Score en stock. Money time. Money time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on commence avec le hand. Le H ne jouait pas pour cause de Golden League, mais on a deux infos importantes. David Balaguer quitte les bords de Loire pour aller s'installer sur les bords de Seine l'année prochaine. Il a signé au Paris Saint-Germain.
Alors moi, j'ai d'autres petites infos par rapport à cette Golden League, puisque la France a perdu 31-26 contre le Danemark le premier match, avec deux buts sur trois pour Théo Monnard. Et 1 sur 3 pour Aymeric Mine et un Emil Nielsen à 12 sur 38. Théo Monnard sera exclu à la 51e après une deuxième expulsion. Et le lendemain, la France a battu la Norvège 31-25. Et là, Mine est à 4 sur 8 et Théo Monard à 6 sur 8. Très belle performance de sa part. Donc, et on rappellera pour le H que mercredi, c'est la Coupe de la Ligue à domicile avec la réception
Créteil.
Créteil, voilà, merci. Et samedi, ça sera la réception de Istres en championnat.
Ouais,
à 20h30.
Avant de recevoir mardi 16, le club danois de Goudme qui sera à la H-Arena, autrement appelé GOG.
Voilà, du coup, on peut parler des filles. Donc les féminines, elles, avaient deux matchs cette semaine. Je vais d'abord commencer par la réception de Metz. Hein. C'était notre semaine messine pour les féminines.
Grosse claque hein, pour les filles.
Ouais. Nantes qui aura mené dans les cinq premières minutes, grâce à Nathalie Hagman et Barbara Moreto, 3-2, avant de s'éteindre complètement et de prendre un 6-0. Et puis, ça a été un enfer, mené 20-13 à la pause. Malgré les 4 buts de sa capitaine Déborah Podard en deuxième mi-temps, jamais en mesure de revenir sur le leader seul invaincu, Metz. Et du coup, on va écouter. Il y a une Messine, je ne sais plus son nom. Si, Chloé Valentini. Et puis, on enchaînera avec Florian André.
Avec Chloé Valentini, après cette superbe victoire de Metz ici à Nantes. Votre réaction ?
Très heureuse d'avoir gagné ce match. On a eu un peu des difficultés au début de la première mi-temps et à la fin de la deuxième mi-temps, mais il faut garder le positif. On a gagné, c'est le principal. On vient de Turquie où on a joué en Ligue des Champions. Là, on part à Celles-sur-Belle. Donc, il y a eu des erreurs, mais il faut qu'on regarde ses erreurs, qu'on s'explique, qu'on parle, mais il faut garder le positif qu'on a gagné ce soir et c'est le principal.
Pour l'instant, vous êtes toujours invaincu en championnat et en Ligue des Champions, ça se passe plutôt bien.
Oui, c'est vrai qu'en championnat, on a invaincu. En Ligue des Champions, on a perdu contre Gyor. À nous de continuer. On travaille au quotidien, tous les jours, pour continuer à avancer, pour continuer à progresser. Donc, étape par étape et j'espère sera toujours invaincu en championnat et qu'on continuera à gagner en Ligue des Champions.
Au mois de décembre, vous avez l'équipe de France pour le championnat du monde. Comment voyez ça ?
C'est vrai que c'est compliqué. J'arrive à Metz, c'est la première fois pour moi que j'arrive. Donc j'essaye de m'adapter. Je ne pense pas trop à l'équipe de France pour l'instant. Il reste encore des matchs, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions avec Metz. Je dois faire du travail, je dois encore essayer d'être performance à Metz et je penserai à l'équipe de France quand le championnat sera terminé et qu'il faudra aller en décembre avec l'équipe de France.
Merci beaucoup Chloé Valentini.
Merci à vous.
Et on écoute Florian André, la gardienne nantaise qui a fait de son mieux en deuxième mi-temps.
Avec Florian André, après cette défaite malheureuse contre Metz, mais c'est le résultat. Du coup, en deuxième mi-temps, vous êtes rentré à la place d'Anna. Et puis, vous avez eu beaucoup de boulot.
Oui, tout à fait. Je pense que sur cette mi-temps, on a défendu 10 minutes, ce qui n'est pas du tout suffisant contre une équipe telle que Metz, même contre toutes les équipes du championnat. Donc, je pense qu'il faut qu'on se reprenne. On a de grosses échéances qui arrivent pour nous. Pardon. On a Mérignac, on a Fleury, à la maison encore. Et après, on enchaîne par la Coupe d'Europe. Donc, je pense qu'on a beaucoup de choses à prouver encore. Et on va devoir vite se relever parce que le match de Mérignac il arrive très très bientôt et qu'on prouve qu'on a notre place et surtout en Coupe d'Europe et voilà.
Est-ce que personnellement il peut y avoir certaines satisfactions quand on enchaîne les arrêts ? Vous étiez 9 arrêts je crois ce soir.
À la fin, la satisfaction est mitigée parce qu'on ne peut pas forcément être 100% satisfait. Je préférerais faire beaucoup moins d'arrêts et être beaucoup moins bonne et gagner que être bonne et qu'au final on perde. Donc, assez mitigée. Individuellement, je peux être assez contente, mais c'est toujours pas assez parce qu'on n'a pas gagné, donc j'aurais pu faire mieux.
Voilà. Et du coup, on parlait de la réaction à Mérignac. Ça a été fait. L'équipe de Léa Linière, auteur elle de 3 buts. Nantes qui s'impose 31-30 sur les terres de Mérignac grâce à ses Scandinaves, puisque Karin Stromberg, Marine Fischstadt, Bergum et Fille Voleur ont marqué 5 buts. Quant à Nathalie Hegman, elle a mis 2 buts. Alors, au programme des Nantaises, du coup, mercredi à 20h, réception de Fleury. Fleury, elles sont dernières, elles n'ont pas gagné un match. Et puis, dimanche, aussi à la maison, c'est la réception des Suédoises de H65 Our pour leur premier, le match aller du troisième tour de Ligue européenne qu'elles avaient gagné l'année dernière.
Ouais, au championnat, elles sont septièmes. 4 victoires, 4 défaites sur 8 matchs.
Un mot de volet ?
Allez, ben le NMRV, sa défaite à Narbonne.
Ouais, 3-1. Narbonne qui est quand même deuxième du championnat. Hein, donc
solide deuxième. Cinquième victoire de rang hein, pour les Audois.
Oui, c'était attendu. Au classement, Nantes est septième ex aequo avec 9 points.
Victoires, 3 défaites.
Exactement. Et au programme, ça sera dimanche à 17h, la réception de Nice.
Les filles, ça va mieux pour le VBN.
Oui, puisqu'elles
ont... Ça a toujours été mieux.
Alors, il y a eu un moment où ça n'allait pas, c'était le deuxième match, la défaite face à Paris Saint-Cloud, 3-7-0, et ça nous a un peu marqué.
Du coup, c'était Saint-Raphaël.
Exactement, Nantes recevait Saint-Raphaël, et une belle victoire 3-0, 27-25, premier set acharné, mais là on a vu le caractère des Nantaises, puisqu'elles étaient menées 21-24. Le deuxième, elles l'emportent 25-17, et le troisième, 25-16. Et on va écouter dans l'ordre Rebecca Lazic et Emma Leroux, la libéro.
Avec cette très belle victoire 3-7-0,
ouais.
Un premier set compliqué dans lequel votre service a été extrêmement important parce que vous avez récupéré le service à 24-21 pour l'équipe de Saint-Raphaël et vous avez aidé à retourner la situation.
Ouais, je suis content parce que la première set c'était super important. C'était une équipe qui joue vraiment vite. Et on a fait 3 erreurs en service et ça c'est qui a fait la difficulté pour nous la première set. Et après quand on a fait un peu plus tranquille, pas tranquille mais un peu plus précision sur la service, on a tourné sur notre jeu et on a joué mieux. C'est important. Je suis très 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 content parce que ça arrive une semaine super difficile pour nous contre Mulhouse, Béziers et tout ça. Et c'est important qu'on ait joué un match comme ça 3-0 et on peut mettre le focus sur la semaine prochaine.
Justement, par rapport au match, on a l'impression que depuis que vous avez gagné Cannes dans la difficulté, il y a un état d'esprit qui a été trouvé, une cohésion d'équipe.
Oui, je pense qu'on a trouvé notre jeu. Et avant, on a cherché encore notre force et tout ça. Et maintenant, on avait un peu plus confiance après Cannes.
Ouais, c'est sûr que je pense qu'il me fallait aussi un temps d'adaptation parce que c'est pas pareil, c'est pas le même rôle que ce que j'ai eu l'habitude d'avoir. Du coup, même si je connais le poste de libéro, que je l'ai travaillé, c'est quand même pas pareil quand on se retrouve libéro titulaire et qu'il y a des responsabilités derrière. Donc ouais, il m'a fallu le temps un peu de prendre mes marques, etc., pour imposer certaines choses. Et là, j'ai déjà pris confiance sur les derniers matchs et maintenant je suis à l'aise et il faut que je mette ça en pratique pour aider l'équipe au maximum.
Alors les Nantaises qui sont troisième au classement à un point de l'ASPTT Mulhouse qu'elles joueront mercredi. Et puis dans cette semaine de folie, elles iront à Béziers samedi.
Super départ hein, pour les passionnantes. 6 victoires, 1 défaite cette saison en championnat. Un mot de hockey.
Alors, un mot de hockey pour vous dire que nos Nantais, qui étaient aussi très occupés, puisqu'ils jouaient à Wascal en 8e de finale de Coupe de France, équipe de D2, ils l'ont emporté 6-0, c'était mardi.
Et ça ira en quart pour la première fois de leur histoire.
Exactement, et quart à domicile. Donc, quel que soit l'adversaire tiré, je n'ai pas encore le tirage, ça sera forcément au petit port. Donc, ça serait super de recevoir une équipe d'élite.
En championnat, c'est un déplacement en Auvergne.
Exactement. Et une victoire 6-1 contre les Sangliers Verdes. Un match plutôt facile, hein, mené 3-0 dans le premier tiers et un partout dans le deuxième et 2-0 pour les Nantais dans le troisième tiers. Au programme, et ça j'y serai, c'est mercredi, la réception des Bisons de Neuilly, qui sont un petit peu devant Nantes au classement. Et puis samedi, un déplacement à l'Étoile Noire, face à l'Étoile Noire de Strasbourg à 18h.
Ouais, les Corsaires sont cinquièmes au championnat.
Exactement. Un tout petit mot de basket.
Attends, j'ai le quart de finale.
Ah, t'as le quart de finale, génial.
Nantes recevra Gap.
Oh, l'équipe de l'élite. L'équipe de Magnus, les Rapaces de Gap.
Exactement.
Très belle affiche.
Donne-nous la date.
Le 1er décembre.
Ça va être magnifique. La patinoire du petit port sera pleine. Allez, le 1er
décembre.
Un mot
de basket et 2-2 chute pour le NHB à Évreux.
Exactement. Une défaite 118-107. Donc du coup, ils se retrouvent avec deux victoires, deux défaites. Ils sont en 6e, 8e place, je crois. Au programme demain, c'est la réception de Rouen à 20h. Et vendredi, un déplacement en Alsace face à Grisoberhofen sous Folweilersheim.
À tes souhaits, on a été complet sur les clubs nantais.
Juste un mot des déferlantes du coup. Basket féminin, une défaite face à Strasbourg à domicile, 63-55. Prochain match, ça sera un déplacement le 20 novembre à la Tronche Mélan.
Eh bien, c'est parfait, Maëlan. On va parler du reste de l'actu. C'est Multizone.
Money time. Multizone. Tout le reste de l'actualité sportive détaillé par la team. Multizone. Money time. Money time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et avant de parler de tennis, on parle vite fait de cyclocross. C'était les championnats d'Europe. En l'absence de Mathieu Van Der Poel, Wout Van Aert, Thomas Pidcock, la surprise est venue de Lars Van Der Haar, le local, le régional de l'étape, hein, qui s'impose devant les Thunarts Eli Iserbeet. Joshua Dubois, premier français, 7e. Allez, on enchaîne sur Bercy.
Exactement, c'était le Masters 1000 Rolex Paris-Bercy et c'est à sacré Novak Djokovic dans un remake de la finale de l'US Open face à Medvedev.
Une revanche, ça se voyait que c'était une revanche.
Lui, Djokovic, qui avait du coup pas pu réaliser le grand chelem calendaire.
Exactement.
Et qui
occasion qui se représentera peut-être plus jamais.
Ça va être très compliqué dans les années à venir. Djokovic qui du coup s'impose 4-6, 6-3, 6-3 et remporte son 6e Master 1000 de l'année. Et du coup, égalise Federer sur une année, je crois.
Un mot des Français dans le tournoi. Mon fils qui avait pris la porte justement face à Djoko.
Exact. En déclarant forfait avant son 8e de finale face à Djokovic, blessé au mollet, il avait éliminé Manarino. Et le Français qui est un petit peu...
Hugo Gaston.
Exactement, lui qu'on avait connu, enfin qu'on avait découvert Roland en 2020. S'offre un quart de finale face à Daniil Medvedev et il a plutôt bien résisté hein, parce qu'il perd 7-6, 6-4, il avait quand même 3 balles de 7 dans la première manche. Donc une belle opposition, lui qui avait quand même déjà éliminé Carlos Alcaraz, la pépite espagnole. Donc c'est vraiment une et Carreno Busta, la tête de chez numéro 12. Donc on a vraiment un très bon tournoi pour Hugo Gaston qui sera, bah, du coup, on espère pouvoir réitérer de belles performances.
36 places au classement ATP, hein. Il monte à la 67e place, hein, ouais, lui exactement. Qui était 103e.
Il rentre dans le top 100 et ça c'est beau, c'est cool.
J'ai une petite question pour vous là. Djokovic, il a gagné le 37 tournois.
37e, ouais, c'est ça. Il passe devant Federer.
Lequel il a gagné le plus?
Jimmy Connors.
Lequel tournoi il a gagné le plus?
Ah, Bercy.
Bah Bercy, il a gagné son 6e, ouais. Je crois.
Et
ben
7e.
Non. Indian West.
Cincinnati.
C'est l'Open d'Australie.
Ah bon?
Lui, il a gagné 9
c'est
fois.
C'est pas un Master 1000. Ouais. Mais oui, sinon, il l'a gagné.
Il
a dit 6.
Et donc là, quand j'ai dit 6, vous avez à peu près tout dit.
Mais c'est pas un Master
1000. T'as dit Miami, il y a eu Pékin, et Bercy, et Wimbledon. 6 fois. C'est ça. Il est quand même très impressionnant quand même.
Mais les grands chelems ne sont pas des masters, c'est pour ça. La nuance a été à faire. Mais oui, mais
prochain rendez-vous sur la planète
Master 1000.
Hein.
C'est compté en Master 1000. Hein.
Prochain rendez-vous sur la planète tennis, ça sera les Masters.
Le Masters de qui sera affronté.
Shanghai ou Londres?
Non, ça a changé encore, je crois.
Je sais plus du tout. Je vais pas vous dire de conneries.
J'ai entendu l'autre fois. Je sais plus où c'est.
Mais c'est dans 2 semaines. Exactement. Et ça sera pour clôturer la saison tennistique.
Et on a nos 8. Hein, nos 8, on aura Djokovic, Medvedev, Zverev, Tsitsipas, Urkas, le Polonais qui est le dernier qualifié. On a Casper Ruud, le premier Norvégien à le faire, notamment. Et le
toujours
dernier,
pas de français.
Je ne sais plus. Comme il s'appelle. Mais voilà, donc on a vraiment. Ça serait un beau tournoi.
Ouais, et en l'absence finalement du Big Four, hein, puisque.
Bah, en absence de Federer, de Nadal notamment, qui ne seront pas là. Donc.
Très bien. Un mot de rugby, c'était les tests d'automne samedi soir avec la victoire des Bleus 29-20 sur l'Australie. Pour ceux qui ont suivi.
L'Argentine.
L'Argentine. Donc une victoire pas sans difficulté hein, face à l'Argentine. Une victoire donc 29-20, comme tu le disais. Avec deux essais pour les Français, c'est Thibaut Flamand et Paito Movaca, les deux français, flamand, qui est un néo en équipe de France. Donc c'est une victoire qui fait du bien, mais qui va demander aussi des réglages à faire à Christophe Galtier, surtout Fabien Galtier, excusez-moi. C'est surtout dans,
tu avec, dis beaucoup de saucisses.
Et ça vient de Toulouse, c'est pour ça. Et c'est les réglages entre Romain Tamac et Mathieu Jalibert, qui on a vu que ça n'a pas été un... Qui, Ntamak qui était placé en numéro 12 en trois quarts centre et Jalibert en charnière avec Antoine Dupont, ça n'a pas forcément très bien marché. À voir si cela sera à réitérer ou pas.
Prochain match, la Géorgie en sparring partner, hein, puisqu'on imagine quand même une belle victoire des Bleus face à une équipe connue notamment. Surtout pour sa puissance des avants.
Exactement, ça sera dimanche prochain à 14h
à Bordeaux.
En attendant le match contre les All Blacks, et là, est-ce qu'on a quelque chose à attendre Bleus ?
On va voir, ça va
on
être
va
un gros test.
Pas trop cabossé.
Non, il n'y a pas de raison. Hein, c'est,
On s'attaque fort, les Géorgiens.
Oui, c'est vrai. C'est
on
vrai.
A, donc, on bon, avait déjà fait un match test, on avait pris des... Ça avait été chaud hein, contre...
Ils ont été... De toute façon, ils ont été pris pour ça. Hein,
oui, oui.
Argentine-Géorgie, c'était deux matchs c'est très costauds, quoi. Très physiques.
Bah les Écossais ont battu les Pumas sont les Australiens plus... 16 à 13 hier à Édimbourg. Oui. Donc une équipe du Sud, deuxième équipe du Sud qui tombe. J'ai pas les autres résultats de l'Afrique du Sud et des Blacks.
Hein, les Blacks avaient battu les Gallois, je crois.
À noter aussi la belle victoire des Françaises contre l'Afrique du Sud. Ça se passait à la Rabine samedi soir, 46 à 3. Et c'était un bon match.
Et t'as pas le résultat du RCV ?
Je sais pas, ils ont joué hier, le RCV ? Ils pouvaient pas jouer à la Rabine hier, c'était pas possible.
Non, c'était pas à la Rabine.
C'était possible.
Il y avait peut-être pas de journée en Pro D2. Allez, un dernier mot de golf sur le PGA Tour. Le Mayakoba Championship, c'est au Mexique. Et victoire pour un Européen sur le circuit américain. C'est Victor Hovland qui était très performant lors de la dernière Ryder Cup. Le Norvégien qui s'impose devant Carlos Ortiz et Justin Thomas.
Ah oui, moi
la semaine prochaine, on sera à Houston.
J'étais plus sur la finale entre Pavon et...
Ah là c'est le circuit européen.
Voilà, circuit européen et voilà Portugal. Pavon, il nous a fait une belle boulette au deuxième trou. Il a fait un triple bogey alors qu'il était en tête. Voilà, le Belge est tenu d'un point et il fait birdie. Juste après il revient au score et il est comme moi, il aime pas la flotte. Il aime pas l'eau.
Allez, on va terminer
juste
sur...
Pour répondre à la question de Jean-Marc, ça sera à Turin, du coup, le Masters de tennis.
Voilà,
c'est ça. Belle info, oui. Bien. Ouais, à
après
Turin
12
pour
ans
une
à Londres.
Première.
Exactement.
Très bien, et ben, il est 20h. On va laisser la place à nos potes de Passage en Force. On vous dit à la semaine prochaine, à la même heure.
Et moi, je vous dis à tout de suite.
Ciao, ciao.
Bonne soirée.
Bisous.
Salut.